prémices des traditions religieuses de l'Inde. Découvrir le premier moment où on passe du moutos au logos. Parce que l'Inde aussi a son logos. L'Inde ne demeure pas uniquement dans le moutos, dans le mythe, mais il passe aussi au logos. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, ce mythe, cette tradition religieuse de l'âme, est capitale pour l'Inde. De ce temps-là, aujourd'hui, on passe par un crible de critiques et on aurait envie, je le vois,
c'était
chrétiens, vous savez bien, ils sont nés dans un climat religieux, mais en même temps philosophique. Chez les pythagoriciens, il y a une rencontre d'une philosophie assez mathématique, géométrique, et une pensée religieuse. Autrement dit, ce que nous faisons, nous voyez, de faire une session philosophique dans un climat religieux, pour certains, ça les énerve. Possible, parce qu'ils n'arrivent pas à distinguer les deux. Sans doute, il y a quelque chose qui ne va pas du côté religieux. Alors, ils sont mal à l'aise. Je me souviens, c'est déjà arrivé. On n'a pas changé malgré ça. Et en faisant ça, on est tout à fait pythagoricien. Tout à fait. On dit que ce climat religieux ne peut être qu'euphorique. Grâce à ce climat religieux, on ne va pas se donner des coups de pied à droite et à gauche, des coups de poing. On va quand même être un peu paisible. On gardera des moments de silence. C'est tout à fait un climat religieux. On prendra certains aliments interdits selon les traditions. Très bien, ça fait les pythagoriciens. Il y a des aliments purs, des aliments impurs. Comme vous voyez ça dans l'Ancien Testament. C'est curieux ces choses-là. Mais la philosophie va jusque-là. Il y a des repas philosophiques. On avait, c'est à Genève, on a comme ça, quand on fait des petites réunions, on a le café philosophique. Je crois qu'il y a un café particulier qui est philosophique. Alors on retrouve le pythagoricien, vous voyez, qui désire avoir des repas particuliers. Autant que possible, on ne s'enivre pas si on est philosophe. Quoique dans le banquet, tout se roule par terre. N'est-ce pas ? Alors les repas midi ne sont pas trop dans ce sens-là. Parce qu'après, il faut une longue sieste avant de se retrouver. On aurait pu prévoir ça, n'est-ce pas ? Et seul Socrate reste debout. C'est le signe du philosophe. Vous voyez, alors on pourrait faire des repas énormes, et puis au bout d'un certain temps, il resterait peut-être que deux. Et là, on pourrait dire à ce moment-là, maintenant, on peut faire de la philosophie. Tous les autres sont écartés. Ce sont des épreuves. Pas du tout comme on fait aujourd'hui. C'est les épreuves aujourd'hui, au plan philosophique, pour devenir passer une licence. Ce serait ça. On comprendrait la maîtrise par rapport au corps. Pour être philosophe, il faut une maîtrise vis-à-vis du corps. Il y a une purification de la base. S'il n'y a pas cette purification de la base, ça ne va pas. Notre intelligence ne peut pas émerger. On n'a aucun souci de ça aujourd'hui. On n'est pas réaliste du tout. Au contraire, quelquefois, on se dit en prenant certaines liqueurs particulières, on sera plus éveillé. C'est une façon d'imagination, peut-être, mais pas du côté de l'intelligence. Alors, Alcméon, pythagoricien du 6e siècle, voici un fragment au sujet de la nature. C'est dans l'honneur de Pontin, cherchez pas trop c'est qui, de Léon et de Batylas, qu'Alcméon, fils de Péridos, a écrit ce qui suit. Aussi bien dans le domaine de l'invisible que celui des choses mortelles, les dieux détiennent la connaissance immédiate. Et nous, de par notre condition humaine, nous sommes réduits aux conjectures. Dès qu'on dépasse les choses visibles, les conjectures, les soucoupes volantes, tout ce qui échappe, toutes les réalités invisibles, vous voyez, on divise le monde, invisible, visible. 6e siècle avant Jésus-Christ, on s'associe et tiré de Diogène Laërce, les villes et philosophes, au livre 8e, paragraphe 83. Bon, c'est un voyez, un petit élément. On dit ça, avec le néon, divisé comme ça, le monde est deux. Il a dit ça. C'est très intéressant, mais ça ne va pas très loin. Théophraste, alors, lui, dit ceci. Selon lui, en effet, ce qui distingue l'homme des autres animaux, c'est qu'il est le seul à disposer de la conscience, alors que les autres ont des sensations sans avoir la conscience. Intéressant. Vous voyez, le visible, l'invisible, la sensation et la conscience. C'est très ancien de regarder l'intelligence et ce qui caractérise l'homme par la conscience. Ce que dit assez volontiers quelqu'un comme Merleau-Ponty. Il a remonté jusque-là. C'est pas nouveau, c'est ancien, ça a été dit. Alcméon affirme que ce qui fait que les hommes meurent, c'est intéressant pour nous, c'est qu'il ne leur est pas possible de joindre le commencement et la fin. Rejoindre le commencement et la fin, vous savez que c'est le cercle. Le cercle fait que le point de départ et le terme se touchent. Et c'est toujours le symbole du cercle, qui est le symbole de l'infini, qui est le symbole de quelque chose qui est au-delà du temps, au-delà de la succession. Et c'est ça qu'on regarde ici. Alcméon affirme que ce qui fait que les hommes meurent, c'est qu'il ne leur est pas possible de joindre le commencement et la fin. On meurt parce qu'on est fini. Et non pas infini. Cette idée de l'infini, alors là aussi, il serait très intéressant de voir dans quelle mesure la saisie de l'infini montre qu'on est au-delà du temps. Si on est au-delà du temps, on est immortel. À travers un symbole, qui est le symbole du cercle, on saisit quelque chose qui dépasse la succession. Le mouvement est dans la succession. Et la succession, par le fait même, implique la mort. Quand il n'y a plus de succession, on est au-delà de la succession, on est au-delà de la mort. Tout ça est très juste. Mais voyez, on touche. C'est uniquement des petites touches. Intéressant, mais qui ne va pas très loin. Autrement dit, ce problème était déjà un problème qui intéressait, parce que c'est un problème humain, la mort. La mort aujourd'hui a intéressé beaucoup les philosophes dans l'existentialisme. Vous savez bien quand Sartre s'est mis à philosopher et qu'il a eu des disciples. Il a des paragraphes intéressants sur la mort. Et ses premiers disciples ont voulu faire l'expérience de la mort. Et ont tout fait pour se suicider. L'expérience de la mort. Que tant qu'on n'a pas fait l'expérience de la mort, on est soumis à la mort. Si on est soumis à la mort, on n'a pas le sens de l'immortalité. On n'a pas le sens de l'au-delà. On n'a pas le sens de l'infini. On comprend très bien cela. Et c'est vrai, quand on a défini l'homme par la mort, en voyant que l'homme ne serait parfaitement lui-même que dans la mesure où il dépasse la mort, dans la mesure où il est au-delà. pouvait tout oublier, le fleuve de l'oubli. C'était un mythe. On l'aurait pris le fleuve de l'oubli. Parce que la mort a quelque chose de plus radical que l'oubli. On est persuadé qu'avec la mort, on oubliera tout. Et ce n'est pas vrai. Parce que si l'âme est immortelle, elle garde ses soucis. Forcément. Elle garde ses impasses. Elle devra un jour ou l'autre rendre compte de cela. Donc vous voyez, au fond, on sait très peu de choses par les pythagoriciens. Seulement que c'est une attitude religieuse qui croyait à l'immortalité. Mais comme texte, très peu. Il y a une tradition religieuse des pythagoriciens qui montre que Pythagore était comme un dieu, un médiateur entre les hommes et entre l'invisible et l'invisible.
Développer 11h.
Quelle heure?
11h.
11h. Faut arrêter maintenant. Je crois. Ah, voilà. Faites-le toujours. Je sais pas si je vous ai réveillé, mais peut-être. Alors, pour montrer que je suis obéissant, je vous lis encore ce passage de Platon. Pour montrer que c'est un acte d'obéissance conscient, raisonnable. Quant à moi, j'ai entendu un jour un sage dire qu'en réalité, nous sommes morts, que notre corps est un tombeau et que la partie de l'âme qui renferme les passions est toute prête à se laisser entraîner et bouleverser. Un charmant faiseur de mythes, peut-être un cilicien ou un italien. Les siliciens sont plus proches de la Grèce. Ah, en jouant sur les mots, appelé tonneau sans fond, la partie de l'âme où se trouvent les passions. On peut mettre beaucoup de sous là-dedans, c'est un tonneau sans fond. Chez les gens dépourvus de sens, en raison de sa facilité à se laisser entraîner et persuader, il a d'ailleurs qualifié ces derniers de passoires, fondant la comparaison de ces individus avec un tonneau percé, impossible à remplir, sur leur caractère incontinent et intempérant. Tout se passe en effet comme si on essayait de remplir d'eau le tonneau percé avec un seau qui serait lui aussi percé. Selon lui, le seau percé, c'est l'âme. C'est l'âme. Du moins, c'est du moins ce que m'a dit mon interlocuteur. Voyez dans Platon, Gorgias, 493. Une vision très curieuse. Tonneau percé. Passe. On ne retient rien. Vous voyez, dans cette première vision, qui n'est pas du tout celle de Platon, hein, on n'oublie pas. Platon, là, au contraire, elle garde tout le passé. La chose terrible, c'est qu'on oublie. C'est pas là. C'est mon corps qui me fait oublier. Parce qu'il est successif. Il est dans la succession. Et donc, si facilement, il peut perdre le sens des réalités. Vous voyez, ce qui m'intéresse en regardant ce que ces philosophes peuvent dire au point de départ sur ce que représente le point de vue de l'âme, c'est de voir que la conception de l'immortalité repose sur la conception que vous avez de l'âme. Ça, petit à petit, on doit comprendre. Nous y reviendrons, parce que c'est ça qu'on va essayer de chercher. Quelle est la piste? Quelle est la voie par laquelle on peut découvrir l'immortalité? Comment atteindre l'immortalité? Parce que ce que vous atteignez tout de suite, c'est le visible. Et aucun visible n'est immortel. Donc, votre expérience immédiate n'est pas de l'immortalité. Comment découvrir l'immortalité? Quelle est la voie pour vous découvrir l'immortalité? Ce n'est pas le corps. Le corps vieillit. Et parce que le corps vieillit, il n'est pas immortel. Aujourd'hui, on est beaucoup plus savant. Hein. Alors, on voit des cellules qui peuvent se refaire. Puisque le corps se refait tout le temps. Et puis des cellules, une fois qu'elles sont détruites, elles ne se refont pas. C'est le signe de la corruptibilité. Quand vous avez les dents d'un enfant, elles tombent et elles repoussent. Pourquoi les dents d'un vieillard ne repoussent pas? Il n'y a pas de raison, quoi. Oui, alors, ça vous fait réfléchir sur qu'est-ce que représente l'immortalité. représente la corruptibilité. Je demande à tous ceux qui désirent suivre les différentes discussions faites entre vous, on en a parlé hier au soir, de rester ici. Puisqu'il n'y a pas de salle qui peut nous contenir. Et on divisera ici tout ce qu'il faut diviser, sans opération, donc sans douleur. Et on mettra des groupes 1, 2, 3, 4. Ceux qui n'ont pas envie d'assister à ces rencontres, pour des tas de raisons qui les regardent, ça ne nous regarde pas, eux quittent la salle. Silence pour que ça aille plus vite. Donc quitte la salle. Et puis il restera ceux qui veulent pousser leur recherche en petits groupes, avec un père ou un frère qui sera là au milieu d'eux. Ils poseront leurs questions. Si on sait répondre, très bien. Si on n'arrive pas à répondre, ça revient ici. Et si moi, je n'arrive pas à répondre, ce qui peut se faire. On l'offrira au Dieu. Le geste des anciens. Et pour nous, l'offrirons à celui qui est notre seul Dieu. C'est toujours ce qu'il faut faire. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. On ne les cache pas. Elles sont présentes. On les cherche par nous-mêmes. Et puis on prie.